l'an du Christ 1571, âgé de 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, là depuis longtemps déjà de sa servitude du Parlement et des charges publiques, en pleine force encore, se retirera dans le sein des doctes vierges où, en repos et sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre. Puisse le destin lui permettre de parfaire cette habitation des douces retraites de ses ancêtres qu'il a consacrées à sa liberté, à sa tranquillité, à ses loisirs.
Michel de Montaigne est un enfant gâté, qui grandit dans un château assis entre la Gironde et la Dordogne. Son père, qui aimait le savoir comme l'aiment les autodidactes, avait retenu d'un voyage en Italie la certitude que la contrainte n'était bonne à rien et que la fréquentation des textes anciens était de nature à embellir la vie. C'est donc au son des épinettes que le jeune homme se lève le matin. C'est dans les livres d'histoire qu'il apprend les vertus, les vices, les erreurs et les mérites. C'est au gré des rencontres qu'il découvre le monde et c'est, comme il dit, sans douleur, sans art, sans livre, sans grammaire, sans précepteur, sans fouet et sans larmes qu'à l'âge de 6 ans, il apprend le latin. Après quelques voyages et des études de droit qui lui valurent d'exercer, entre autres, les fonctions de conseiller à la cour des aides de Périgueux puis au Parlement de Bordeaux, exception faite de la charge de maire de Bordeaux qui lui a été conférée en son absence et qu'il emploie modestement à réconcilier catholiques et protestants, Montaigne choisit, à 38 ans, parce qu'il en a les moyens, de vivre enfin, d'écrire et de penser pour lui-même, dans le sein des doctes vierges, à l'abri du travail et du besoin, autrement dit, de se consacrer tout entier, d'une part à l'administration de son domaine, et d'autre part à l'étude, dans sa librairie, au deuxième étage d'une tour de son château, sous le patronage, entre autres, de Sénèque, de la Bible, de Xénophon et de Michel de l'Hôpital. Montaigne sait bien que quand on travaille trop, on ne fait jamais rien. Les tourments de la vie quotidienne rendent d'ailleurs métaphysiciens. Pour croire que le sensible n'est rien, que les sens sont négligeables et nous induisent en erreur, il faut avoir le sentiment de s'y perdre et d'y perdre son temps. Les hommes qui sont débordés n'ont au quotidien que la ressource de regretter la vie qu'ils mènent ou d'espérer un monde meilleur. L'ignorance aime à imaginer un savoir total. L'inculte se plaît à penser qu'il sait tout. Mais quand on est comme Montaigne, l'homme le plus cultivé de son temps, on en sait bien assez pour se payer le luxe de n'être sûr de rien. De sorte que la métaphysique est comme un altermondialisme universel qui distille de l'espoir et du manque dans nos vies saturées. Une drogue, un médicament qui acclimate au système qu'elle prétend contester. C'est quand on est très occupé qu'on se flatte de s'élever par la pensée, de prendre du recul. Le sage, au contraire, l'oisif comme Montaigne, qui s'isole, qui se prête à autrui mais ne se donne qu'à lui-même, qui s'installe au-dessus de la mêlée d'où il regarde les foules, se donne aussi, de cette manière, les moyens d'admettre qu'on ne sort jamais du ciel qui nous contient. Pour penser l'immanence, il faut vivre en hauteur. Pour être lucide, il faut être privilégié. Il suffit, à l'inverse, pour vivre dans l'espoir, d'avoir le nez dans le guidon. À la différence de Spinoza, Montaigne n'est pas le plus grand philosophe de tous les temps. Mais il est incontestablement le plus grand philosophe du présent, et ce, quel qu'il devienne. Aujourd'hui, pour l'heure qui vient, c'est en compagnie d'André Comte-Sponville, philosophe et excellent lecteur de l'ermite bordelais, que je vous propose d'arpenter pour une conversation en deux parties, les pages sans égales des Essais de Montaigne.
C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beauté empruntée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon, simple, naturelle et ordinaire, sans étude et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïve autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc. De Montaigne. Ce 12 de juin 1580.
Qui est ce moi qu'il peint ?
C'est Michel de Montaigne, c'est-à-dire non pas un homme. Vous savez que Montaigne félicite Socrate d'avoir amené la philosophie du ciel où elle s'égarait à l'homme qui est son vrai sujet.
Ce faisant d'ailleurs, il lui fait le reproche inverse de celui qu'on a fait traditionnellement à Socrate.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il assume cette révolution socratique qui, de la philosophie de la nature des pré-socratiques, ramène donc la philosophie à l'homme. Mais Montaigne va plus loin, puisqu'il ramène la philosophie non pas à l'homme en général, mais à Michel de Montaigne, c'est-à-dire à un individu singulier. Et c'est tout le génie de Montaigne que d'avoir atteint l'universel par le chemin du singulier.
Oui, c'est remarquable, mais ce qui est troublant, c'est qu'il donne le sentiment de se défaire des apparences, de se défaire de l'illusion dans laquelle nous maintient une espèce de reconnaissance sociale, ce qu'il désigne quand il parle de faveur du monde et des beautés empruntées, en un ton d'ailleurs qu'on retrouvera plus tard chez Pascal, avec les fameuses qualités empruntées. Mais se détournant de ces qualités empruntées ou de ces beautés empruntées, il désigne un moi qui est pourtant la chose la moins saisissable qui soit. Le paradoxe est que cette identité sous-jacente n'en est pas une.
Oui, mais ça c'est le réel même. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Je n'enseigne pas, je raconte. Autrement dit, au cœur de ce qu'on peut appeler la métaphysique montagnienne, il y a cette idée que nous n'avons aucun accès à l'être, comme il dit, disons aucun accès absolu à l'absolu. Et donc nous sommes voués à l'apparence, nous sommes voués à l'impermanence. Ça vaut bien sûr pour le moi lui-même, qui est insaisissable, mais ça vaut autant pour le monde. Autrement dit, Montaigne est un vrai philosophe du devenir. Au fond, s'il fallait donner un maître à Montaigne, ça serait Héraclite, bien sûr. Sauf que, là encore, au lieu de penser simplement le devenir dans sa dimension cosmique, pourrait-on dire, il la pense dans sa dimension singulière, biographique, narrative. Et là, il invente quelque chose qui est tout à fait unique, à mon avis, dans l'histoire et de la philosophie et de la littérature, c'est-à-dire la vraie fusion des deux. Je crois que Montaigne, comme Pascal, mais peut-être encore plus et mieux que Pascal, est peut-être le seul qui soit à la fois absolument philosophe et absolument écrivain. Et je dirais au plus haut niveau dans ces deux genres. Et là, il y a une singularité de Montaigne que l'université française n'a pas cessé de sous-estimer et qui fait au contraire sa grandeur irremplaçable.
Oui, c'est parce qu'il est l'un qu'il est l'autre également. C'est la même démarche.
Il pense en écrivant. Lui, la forme entière de l'humaine condition, comme il dit. Donc il y a vraiment un universalisme montagnien, il y a un humanisme montagnien, mais sans illusion ni sur l'universel, ni sur l'humanité.
Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives à pansements si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure, il m'a fallu si souvent me testonner et composer pour m'extraire que le patron s'en est fermi et aucunement formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tous autres livres. Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement? Car ceux qui se repassent par fantaisie seulement et par langue, quel cœur, ne s'examinent pas si primement, ni ne se pénètrent, comme celui qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force.
Il dit « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait ».
Oui, c'est le vrai sens du mot « essai ». Alors, il faut dire à nos auditeurs que ce titre, aujourd'hui bien banal, d'essai, est une invention de Montaigne dans ce sens-là. Le genre « essai », j'écris un essai, personne n'en avait jamais parlé avant Montaigne. Autrement dit, Montaigne crée un genre, le nomme et s'installe définitivement au sommet du genre qu'il crée, puisqu'aucun auteur d'essai jamais depuis n'a prétendu avoir fait mieux que Montaigne. Mais ce qu'il faut dire quant au fond, c'est que pourquoi part-il d'essai ? C'est qu'il s'essaie lui-même. Autrement dit, c'est un essai au sens où on essaie une voiture pour savoir ce qu'elle vaut. Eh bien, pour savoir ce que je vaux, il faut que je m'essaie. Ce qui reprend à la fois l'idée des exercices spirituels, comme dira Pierre Hadot, exercices cyniques, comme dit souvent Montaigne, Il s'agit de s'exercer soi-même, il s'agit de se connaître soi-même, comme disait Socrate, bien sûr. Et au fond, les essais de Montaigne, c'est une tentative de s'essayer par écrit, et effectivement de devenir soi en faisant son livre.
C'est-à-dire qu'on vit souvent sous le régime de l'illusion que l'identité serait sous-jacente quelque part et qu'il suffirait de l'exhumer en définitive, en nettoyant le ciel des apparences ou bien en balayant devant sa porte. Ici, l'identité ne cesse de se construire, ce qui d'ailleurs, on peut commencer par la fin, justifie le fait que les essais, comme leur nom l'indique et comme la démarche l'indique, soient profondément inachevés. L'objet qu'ils se donnent à saisir est un objet plus vaste, plus difficile et plus complexe que n'importe quelle théorie, puisque c'est un objet qui est pris dans le temps. Il dit à un moment, c'est de lui qu'on tient cette phrase, « Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux ». Ce qui est une intuition qui sera reprise ensuite par tous les déconstructeurs de l'identité personnelle.
Oui, autrement dit, l'identité ne cesse de se construire et dans le même mouvement de se déconstruire. Et là encore, c'est cette fusion entre ces deux mouvements qui donne à Montaigne une singularité et une grandeur, je crois, sans exemple. Nous sommes tout de l'opin. Autrement dit, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de choses pensantes. Il y a un devenir, il y a une pluralité irréductible. Ce pourquoi, en effet, le moi est à construire, il est à construire d'abord dans la fidélité à soi-même, dans la fidélité à la parole donnée, par exemple, et en même temps, toujours à déconstruire pour ne pas être dupe des illusions du sujet. Il y a un côté maître zen chez Montaigne. Montaigne est le contraire d'un philosophe du sujet, le contraire de Descartes, et c'est ce qui fait, à mon sens, la vraie modernité de Montaigne. Vous savez, on dit beaucoup depuis Hegel et Husserl que la philosophie moderne commence à Descartes. Je n'en crois évidemment rien. Ce que je crois, c'est...
On a dit aussi que la philosophie tout court commençait à Platon, ce qui est aussi faux.
Ce qui est aussi faux, bien sûr. Moi, ce que je crois, c'est que la philosophie commence, si tant est qu'elle commence avec les pré-socratiques, et que la philosophie moderne commence avec Montaigne, et qu'au fond, toute la tentative de Descartes sera d'échapper à Montaigne par le cogito. Or, la vraie modernité, celle d'aujourd'hui, celle qui prolonge les progrès des sciences humaines et du structuralisme, est au contraire une modernité sans sujet, voire contre le sujet, ou plutôt une modernité qui essaye toujours de se libérer des illusions du sujet pour lui donner une chance de se constituer. Ce qui est d'abord, c'est un devenir impersonnel, c'est une pluralité irréductible, et il s'agit de construire le moi que je ne suis pas encore, et qu'en toute rigueur, je ne serai jamais, puisqu'au bout du compte, le devenir et la mort ont toujours le dernier mot.
Il y a par exemple ce texte où il dit « Il y a quelque apparence de faire jugement d'un homme par les plus communs traits de sa vie. » Mais vu la naturelle instabilité de nos mœurs et opinions, il m'a semblé souvent que les bons auteurs même ont tort de s'opiniâtrer à former de nous une constante et solide contexture. Ils choisissent un air universel et, suivant cette image, vont rangeant et interprétant toutes les actions d'un personnage, et s'ils ne les peuvent assez tordre, ils les renvoient à la dissimulation. Ce que Montaigne désigne ici, c'est tout simplement ce dont tout un chacun fait les frais, c'est-à-dire l'étiquette, la nécessité par autrui de vous installer ou d'installer qui que ce soit dans un lieu, une fonction, un état, bref, de vous identifier. Et ce que Montaigne met en avant, c'est la façon dont nous pouvons échapper à ça. Il y a quelque chose d'ailleurs dans cette démarche d'assez sartrien, dans cette volonté de ne pas être réifié, chosifié par le regard d'autrui, non ?
Oui, c'est vrai, on pourrait faire ce rapport. On ne m'ôtera pas de l'idée que Montaigne est plus étonnant que ça, plus touchant, à mon sens, encore plus essentiel, parce qu'il ne se contente pas d'essayer d'échapper en général à la réification. Il montre dans le détail, dans l'évocation de son parcours, de ses changements, de son évolution, qu'il n'est pas une chose, qu'il n'est pas une substance, qu'il est une histoire. Les autres forment l'homme, je le récite. Autrement dit, je le raconte. Et c'est dans le récit que se donne la vérité.
Est-ce que le mot de vérité est le bon ici ?
Oui, c'est le bon, parce que...
En quoi alors ? S'agit-il de vérité ? Parce que là, à ce moment-là, si le mot de vérité est le bon, c'est que vous ne donnez pas à la vérité le sens que la métaphysique lui donne, de conformation d'un discours à la réalité, puisque la réalité est insaisissable.
Pour comprendre Montaigne, il faut comprendre, je crois, deux choses, enfin, entre autres. Il faut d'abord comprendre que la vérité n'est pas la même chose que la connaissance. Contrairement à ce que veulent croire les dogmatiques, qui croient que la connaissance, c'est la possession de la vérité. Non, pour Montaigne, la vérité, on ne peut jamais la posséder. elle n'en existe pas moins. Et c'est en ce sens que le scepticisme de Montaigne n'est ni un nihilisme ni une sophistique. Montaigne ne dit nulle part que rien n'est vrai. Proposition évidemment contradictoire. Si rien n'était vrai, il ne serait pas, vrai
que rien ne le soit. Donc,
Montaigne dit rien n'est certain, ce qui est tout à fait différent. Autrement dit, il y a une vérité. Montaigne ne cesse de la rappeler. Nous ne pouvons jamais la connaître absolument. Et ça vaut aussi pour soi. Autrement dit, Montaigne essaye tout simplement de dire la vérité sur lui, et il sait d'entrée de jeu qu'il n'y arrivera jamais parfaitement. Il n'en reste pas moins que, du même coup, c'est sans doute l'auteur qui ment le moins de toute l'histoire de la philosophie et peut-être aussi de la littérature. Parce qu'il ne fait pas semblant d'être soi. Il ne fait pas semblant d'être constant. Il ne se préoccupe pas de se contredire ou non. Je me contredis peut-être, écrit-il quelque part, mais à la vérité, je ne contredis pas
la vérité.
Et cette vérité, elle est présente chez Montaigne, mais elle est présente en creux, comme ce qu'on cherche et comme ce qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Ce qu'a très bien compris Merleau-Ponty dans l'éloge de la philosophie. Merleau-Ponty
texte absolument écrit, magnifique, il faut dire ça. C'est un texte magistral sur Montaigne qui commence précisément par ce que
voilà,
vous dites.
Et Merleau-Ponty dit que le scepticisme est mouvement vers la vérité. Simplement, ce mouvement, il est impossible de l'arrêter jamais.
Je ne puis assurer mon objet. Il va à trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point comme il est en l'instant que je m'amuse à lui. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge en autre, ou comme dit le peuple de 7 ans en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut accommoder mon histoire à l'heure. Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Desmades, je ne la contredis point. Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m'essaierais pas, je me résoudrais. Elle est toujours en apprentissage et en épreuve.
L'erreur d'un Descartes, l'erreur d'un Spinoza, pour prendre des génies évidemment immenses, c'est d'avoir cru pouvoir arrêter ce mouvement vers la vérité. C'est d'avoir cru un moment détenir la vérité. C'est une prétention que Montaigne n'a jamais eue. Ça ne l'empêche pas d'avancer vers la vérité, ça l'empêche de s'arrêter jamais dans ce mouvement.
Alors, c'est amusant d'ailleurs au passage de voir, comme l'hôpital peut se moquer de la charité, d'entendre Rousseau parler de Montaigne. Il dit ceci: je mets Montaigne à la tête de ces faux sincères qui veulent tromper en disant vrai. Il se montre avec ses défauts, mais il ne s'en donne que d'aimables. Il n'y a point d'homme qui n'en ait d'odieux. Montaigne se peint ressemblant, mais de profil. Peut-on être de plus mauvaise foi que ça?
Ah, je ne sais pas, parce que ça n'est pas tout à fait faux. C'est vrai que Montaigne dit sur lui des choses qu'aucun philosophe n'a jamais dites, mais je crois un petit peu avec Rousseau, je crois d'ailleurs avec Pascal aussi, que si l'on disait vraiment toute la vérité sur l'homme en général et sur soi en particulier, il y a des moments malgré tout où elle serait plus désagréable qu'elle n'est dans les essais de Montaigne. Mais ça n'est pas réfuter Montaigne, c'est simplement constater qu'effectivement ce mouvement vers la vérité, non seulement il est toujours inachevé, ce que Montaigne dit expressément, mais il n'est jamais total, il est même non plus jamais totalement sincère, et on pourrait s'amuser si l'on voulait à pointer chez Montaigne tel ou tel petit moment de mauvaise foi, ou disons de bonne foi limitée et toute relative. Ça ne retire rien évidemment à la grandeur des essais, ça montre simplement qu'évidemment Montaigne n'est qu'un homme avec les petitesses que cela suppose.
Le vrai problème ici est de comprendre en quoi le fait de se donner soi-même comme objet n'est pas un exercice de vanité, n'est pas un exercice d'orgueil. Pascal reprochait son orgueil à Montaigne, Rousseau reproche son orgueil à Montaigne. C'est l'orgueil d'un homme qui fait profession d'humilité. Alors il peut y avoir de l'orgueil derrière le fait de se vanter d'être modeste. Mais Montaigne ne s'en vante pas vraiment d'ailleurs. Mais en quoi le fait de se donner soi-même comme unique objet n'est pas l'effet de l'orgueil, mais au contraire, la marque d'une certaine humilité nécessaire à la connaissance, c'est-à-dire nécessaire à l'ouverture au monde.
Mais les deux positions de Pascal et de Rousseau ne sont pas équivalentes. Parce que quand Pascal écrit « Le sot projet qu'eut Montaigne de se peindre », là, il est clairement injuste et à côté de la plaque. Non, non, le génial projet qu'eut Montaigne de se peindre. Par contre, quand Rousseau dit que Montaigne se peint mais de profil, là, ça n'est pas tout à fait faux, mais simplement parce que personne ne peut se peindre absolument de face. Et là, Paul Valéry dira la même chose. Au fond, c'est la limite de toute autobiographie. On pourrait assez facilement faire la même objection au Rousseau des Confessions, si vous voulez. Donc voilà, Montaigne se peint.
Mais surtout que les Confessions sont un livre fait pour construire une statue glorieuse. Mais ce n'est pas l'objet de Montaigne.
Bien sûr, de ce point de vue, Montaigne est bien plus sincère, bien plus véridique, évidemment, et bien moins malade et souffrant, entre nous soit dit, que le génial Rousseau. Mais voilà, on ne peut pas se peindre de face. Autrement dit, toute peinture du sujet ou de ce qu'on prend pour la subjectivité est elle-même subjective.
Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés qui soit suspendu au haut des tours Notre-Dame de Paris. Il verra par raison évidente qu'il est impossible qu'il en tombe, et s'il ne se saurait garder que la vue de cette hauteur extrême ne l'épouvante et ne le transisse. Car nous avons assez à faire de nous assurer aux galeries qui sont en nos clochers si elles sont façonnées à jour, encore qu'elles soient de pierre. Il y en a qui n'en peuvent pas seulement porter la pensée. Qu'on jette une poutre entre ces deux tours d'une grosseur telle qu'il nous la faut à nous promener dessus. Il n'y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher comme nous ferions si elle était à terre.
Vous venez d'entendre un texte de Montaigne qui montre finalement combien la science est impuissante à guérir des émotions et qu'en somme, comme il dit, on peut être érudit, craintif et malheureux. Eh bien, écoutez maintenant Pascal.
Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.
Les philosophies ne sont pas des points de vue, mais des points de vie. Des lieux, des affects d'où la pensée s'épanouit. Chaque philosophe est un cataclysme nouveau, un caractère nouveau. Un système ou un antisystème qui porte avec lui tout un monde inédit, limpide ou jargonnant, subtil, partial, total, fragmentaire, inachevé. Peu de disciplines donnent, autant que la musique ou la philosophie, le sentiment de la différence entre les êtres. Du coup, toute coïncidence est un miracle. Quand on lit de la philosophie, quand on passe des journées entières d'un système à l'autre, aucune expérience n'est aussi émouvante, et donc instructive, que celle d'une communauté d'intuition entre deux penseurs, en particulier quand ceux-ci ne l'admettent pas. Nietzsche et Jankélévitch, par exemple, ces jumeaux qui s'ignorent et dont le second déteste le premier, ont évidemment le même goût de l'innocence et de la musique. Montaigne, de son côté, est une belle âme qui se prend pour un corps. Pascal, quant à lui, est un cerveau puissant qui se prend pour une âme. Mais l'un et l'autre s'entendent à remettre l'homme à sa place. Et l'un et l'autre savent qu'on peut avoir la tête qui tourne, même quand on a la raison pour soi. La philosophie est pacifique. À la fin d'une vérité, elle envisage la vérité d'en face ou d'à côté. La philosophie résonne. Les penseurs sont des échos philosophants qui se répètent et se contredisent selon l'humeur ou l'époque. Ce n'est donc pas quand on s'oppose, mais quand on épouse qu'on pense. Rien n'est plus ridicule, ni stérile, que l'affrontement sempiternel de deux visions du monde. Si Michel de Montaigne est seul de son camp, c'est qu'il accepte tout, c'est qu'il peut tout entendre. Personne ne pense mieux, ni plus singulièrement, que l'homme qui pille, plus qu'il ne conteste, les paroles et les livres qui le précèdent. Penser par soi-même est, dit-on en général, la grande récompense de l'ascèse philosophique. Peut-être. Mais penser par soi-même, c'est surtout le chemin le plus sûr pour penser à la fois tout seul et comme tout le monde. C'est une autre affaire, en revanche, bien plus difficile, plus amusante, plus drôle, plus intelligente, enfin, de penser par autrui.
Des textes comme ça, où Pascal pille Montaigne, le critique, l'évoque, s'appuie sur lui, sont innombrables. Et ce qui m'a frappé presque à chaque fois, c'est que dans notre souvenir, c'est toujours le texte de Pascal qui domine. On avait oublié que Montaigne le disait aussi.
Est-ce que ça tient au vieux français, ça?
Je crois pas. Je crois que ça tient au fait que Pascal, si l'on peut dire, a orchestré la pensée de Montaigne. C'est un peu comme Ravel avec les tableaux d'une exposition de Moussorgski, si vous voulez. Il lui donne son maximum de force, son éclat. Ça devient beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus rhétorique. Parce qu'il faut dire que Pascal est un génial rhéteur. Et Pascal ajoute une rhétorique tellement efficace qu'effectivement la formule chez Pascal a presque toujours davantage de force que chez Montaigne et s'impose donc davantage à la mémoire. Sauf que quand on relit le texte de Montaigne, on voit presque toujours que la version montagnienne est plus libre, plus spontanée, plus inventive, plus singulière, parce que justement sans rhétorique. Et confronter les deux, moi j'avoue que ça m'a beaucoup aidé, moi qui ai lu, comme presque tout le monde, Pascal bien avant Montaigne, et qui est toujours infiniment admiré et aimé Pascal, mais ça m'a aidé beaucoup à remettre Montaigne à son vrai niveau, à son vrai rang, qui est évidemment le premier rang.
Oui, originel, premier chronologique, logique également.
Archaïque, comme on dirait en grec, c'est-à-dire à la fois le premier dans le temps et principiel en droit, si l'on peut dire, et peut-être aussi le premier en admiration. Alors disons-le maintenant, il faudra bien le dire un jour ou l'autre, mais la France est injuste avec ses plus grands écrivains.
C'est-à-dire que Montaigne, c'est le patron, à la fois parce qu'il reprend sans les synthétiser, mais en les ajoutant, en les mélangeant, en les fondant, les intuitions qui le précèdent, mais en même temps parce que, non seulement par sa démarche, par son intention, mais également par ses intuitions, il annonce des problématiques qui seront ensuite reprises à l'infini. La place de Montaigne est dans l'histoire des idées très exactement à l'extrême centre d'un passé qui est le passé antique et de ce qui suivra la Renaissance que lui incarne.
Oui, l'extrême centre chronologique, vous avez bien sûr raison, c'est pour ça que la philosophie moderne commence avec lui. Aussi l'extrême centre théorique, pourrait-on dire, ou spéculatif, c'est ce qu'il appelle joliment la voie du milieu. Et je suis très sensible au fait que cette expression que...
Vous en revenez au zen.
Le Bouddha, c'est-à-dire, bah oui, dans le bouddhisme, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire qu'on renonce et à l'ascétisme et à la débauche. Et Montaigne, dans le dernier chapitre du troisième livre des Essais, donc vraiment à la fin des Essais,
le chapitre de l'expérience, qui est un des plus beaux chapitres des Essais.
De toute façon, on en parlera, mais le troisième livre est de très loin le plus beau des livres, à mon avis, c'est par
celui-là. C'est le plus écrit, en tout cas.
C'est par celui-là qu'il faut commencer, paradoxalement, la lecture des Essais de Montaigne. Et Montaigne explique bien que la voie du milieu est à la fois la plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est plus facile d'aller par les extrêmes, et évidemment la plus riche, la plus tonique. Vous avez raison aussi de dire, bien sûr, que Montaigne est le patron, mais là encore, il l'est doublement, voire triplement. Il est le patron en tant qu'écrivain. Encore une fois, c'est un prosateur, mais d'un génie hallucinant. Il est le patron aussi, et ça, presque tout le monde l'ignore, d'un point de vue théorique. C'est un penseur extraordinaire. Et moi, j'ai fait des cours d'agrégation à la Sorbonne sur Montaigne. J'ai expliqué les textes mot à mot, ligne à ligne. Je vous jure bien que l'intelligence, la rigueur, la subtilité, l'inventivité, la créativité spéculative de Montaigne est à l'égal des plus grands. Mais il y a une troisième grandeur de Montaigne, un troisième patronage de Montaigne, si vous voulez. C'est que de tous les génies que l'humanité s'est donné, c'est aussi l'un des plus sympathiques, si vous voulez. Et de ce point de vue, moi, il me fait penser à Aristote. Si vous prenez Aristote et Platon, pour prendre deux génies évidemment considérables, on n'ôtera pas de l'idée que le plus sympathique des deux, de très loin, c'est Aristote. Et ce que j'admire chez Aristote comme chez Montaigne, c'est la façon dont le génie le plus extrême se conjoint avec l'humanité la plus profonde, la plus riche, la plus chaleureuse, je dirais volontiers, là encore, la plus sympathique. Alors le mot semble petit, mais plus je vieillis, plus je trouve que la chose ne l'est pas.
La sympathie.
Oui, la sympathie.
C'est comme la civilité dont parle Montaigne, d'ailleurs. Ce sont ces petites vertus, si j'ose dire, qu'ils portent à leur plus haut point et à leur point d'excellence.
Montaigne appelle la douceur et bénignité. Ce que j'appelle sympathie chez Montaigne, c'est la douceur et bénignité. Eh bien, c'est vrai que Montaigne est un auteur plein de douceur, plein de bénignité, et que ça n'empêche ni la rigueur, ni la profondeur, je dirais plutôt au contraire.
Et les rois, et les philosophes fiantent, et les dames aussi. De toutes les actions naturelles, c'est celle que je souffre plus mal volontiers m'être interrompu. J'ai vu beaucoup de gens de guerre incommodés du dérèglement de leur ventre, tandis que le mien et moi ne nous faillons jamais au point de notre assignation, qui est au saut du lit, si quelque violente occupation ou maladie ne nous trouble. J'aime l'allure poétique à saut et à gambade. Oh Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette variation a de beauté. C'est l'indigent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi. Il s'en trouvera toujours en un coin quelques mots qui ne laissent pas d'être battants, quoiqu'ils soient serrés. Je vois ou change indiscrètement et tumultuairement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent et les préceptes de nos maîtres, et encore plus leurs exemples.
Alors, cela dit, vous faites l'éloge d'Aristote contre Platon. Je ne sais pas si je vous suivrai sur ce terrain-là, dans la mesure où il faut quand même admettre, et c'est pas un hasard, puisque c'est quand même en terminale qu'on les découvre. Quand on découvre en terminale Aristote et Platon, l'élève de terminale préfère de loin la forme délicate et marrante, pour tout le dire, des dialogues de Platon à l'austérité des essais d'Aristote. Mais le paradoxe, d'ailleurs, c'est que l'austérité des essais d'Aristote désigne des points qui sont à la portée de l'homme, puisque Aristote s'occupe du praticable, du réel, de l'immanent, d'une certaine façon, plus que Platon. En tout cas, qui lui le rejette en bloc sous le règne de l'intelligible. Donc le paradoxe, c'est que Platon écrit de façon merveilleusement lisible en désignant un point qui est hors de notre atteinte, alors qu'Aristote écrit de façon très austère, et que le style d'Aristote, qui est d'une certaine manière hors d'atteinte, désigne un point qui lui est précisément le point de la vie quotidienne. Est-ce que vous dites qu'Aristote est plus sympathique, mais il l'est au fond, mais la forme plaide en faveur de Platon, non ?
Aristote est plus sympathique au fond, et Platon est plus artiste, plus poète dans la forme.
Vous savez bien que pour Montaigne, la forme importe encore plus que le sujet.
Ce que j'allais vous dire, c'est que Montaigne vous donnerait raison contre moi, puisque le fameux texte sublime, je crois que c'est dans 3-9, où Montaigne, parlant de lui-même, écrit « J'aime l'allure poétique qui va à sauce et à gambade ». L'exemple qu'il en donne, ça n'est pas du tout Virgile ou Lucrèce, c'est Platon. Et donc, en effet, dans la forme, Montaigne est comme votre élève de terminale, il préfère évidemment Platon. D'ailleurs, Montaigne a un rapport un peu difficile à Aristote, qu'il trouve trop austère, trop compliqué. Bon, c'est vrai qu'Aristote est un écrivain, un auteur moins séduisant que Platon. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Il n'en reste pas moins que dans le fond. Et pas seulement dans le fond spéculatif, où là, il de génie tellement immense que la comparaison est un petit peu dérisoire, mais je dirais dans le fond humain. Celui qui a écrit que sans l'amitié, personne ne choisirait de vivre, c'est Aristote. Ça n'est pas Platon. Et alors, autant c'est vrai que le Périhyménéia ou la Métaphysique sont des textes extrêmement difficiles, géniaux absolument, mais très difficiles, autant l'Éthique à Nicomaque est ce qu'on a écrit, à mon avis, de plus beau, de plus profond, de plus chaleureux, de plus émouvant sur l'humanité. Autrement dit, sans l'amitié, la vie serait une erreur. Vous savez que Nietzsche, beaucoup plus tard, dira « sans la musique, la vie serait une erreur ». Et au fond, Montaigne, dans son essai sur l'amitié, pensant à son ami La Boétie, mort quand il écrit ce texte sublime, Montaigne en serait d'accord avec Aristote.
Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ».
Pour en rester une seconde sur Aristote et Platon. Platon, parlant d'Homère, dit « Bien sûr, l'amitié nous porte vers lui, mais il nous faut préférer la vérité à l'amitié. Par conséquent, il rompt avec Homère, comme Socrate le faisait avec Parménide, au nom de la vérité. »
Et Aristote rompt avec Platon au nom de la vérité.
Au nom de la vérité aussi, c'est-à-dire qu'Aristote et Platon ont en commun de sacrifier l'amitié à la vérité, alors que chez Montaigne, comme vous le disiez, dans le chapitre 28 du livre 1 des Essais, qui peut-être livre la clé, ou en tout cas la raison d'être des essais, Montaigne écrit un chapitre, un livre en vérité, sur l'amitié, qui est un des plus beaux morceaux des essais, à la faveur de la mort de son ami, de son frère, La Boétie. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Montaigne, l'amitié n'est jamais supplantée par la vérité.
Oui, mais je ne dirais pas, moi, qu'Aristote sacrifie l'amitié à la vérité. Il dit, ou c'est un propos qu'on lui prête, « Je suis l'ami de Platon, mais plus encore de la vérité ». Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est ami avec un philosophe qu'on doit lui donner raison quand on pense qu'il a tort. Mais là-dessus, Aristote a évidemment raison, c'est de bonne déontologie intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il cesse d'être l'ami de Platon. Ça dit même exactement le contraire. « Je suis l'ami de Platon, je reste l'ami de Platon. »
Donc je lui dis la vérité.
Mais plus encore de la vérité. Voilà. Il s'agit de rester fidèle aux deux, je dirais, dans la séparation entre les deux. Ça n'est pas parce que mon ami pense ceci que c'est la vérité, ça n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec mon ami que je dois cesser d'être son ami. Et je crois que là-dessus, Montaigne en serait d'accord. Alors, puisqu'on en est à ce fameux essai 1.28, on peut pas ne pas relire ça, me semble-t-il. Donc Montaigne, parlant de la mort de la Boétie, écrit ceci. « Car, à la vérité, si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu, je l'ai passée douce, aisée, et, sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, ayant pris en paiement mes commodités naturelles et originelles, sans en rechercher d'autres. Si je la compare, dis-je, toutre, aux 4 années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, la Boétie, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse.
Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi au lieu de me consoler me redoublent le regret de sa perte.
Nous étions à moitié de tout, il me semble que tu dérobes sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. C'est l'un des textes les plus bouleversants qu'on ait jamais écrit, et sur l'amitié, et sur le deuil, et sur l'amour, bien sûr, mais et donc sur le deuil, si vous voulez. Alors, vous avez raison de dire que c'est peut-être le secret des essais. C'est-à-dire que, pour une part, Montaigne a écrit les essais pour faire son deuil de la Boétie, comme on dit aujourd'hui, pour se consoler de sa perte, ou qu'en tout cas, les essais ne seraient pas ce qu'ils sont si Montaigne n'avait pas et connu, et aimé, et perdu la Boétie. Et ça donne à ce livre une partie de sa chaleur humaine. C'est-à-dire que Montaigne est définitivement inconsolable de la mort de la Boétie. Il entreprend pourtant de s'en consoler en écrivant les essais, et c'est sur cet impossible, puisqu'il ne peut pas se consoler de l'inconsolable, c'est sur cet impossible qu'il ne cesse de bâtir ce qu'on a appelé le tombeau de la Boétie, c'est-à-dire les essais de Montaigne.
Ce qui veut dire aussi que ce livre si joyeux, si délicieux à lire, si amusant qu'on peut lire, d'ailleurs il faudra dire de quelle façon on peut lire les essais de Montaigne, car c'est vrai que la forme peut rebuter quelqu'un qui ne l'a jamais, qui les a jamais ouverts.
Si joyeux, si amusant, oui, et si difficile.
C'est joyeux, amusant et difficile, mais est aussi l'œuvre d'un homme mélancolique. C'est aussi l'œuvre d'un homme. La vastitude, si j'ose dire, de Montaigne va jusque-là. C'est un homme triste qui écrit, ou en tout cas qui est triste à l'instant où il décrit sa propre tristesse à l'intérieur des essais.
C'est un homme triste, c'est un homme joyeux, selon les moments, selon les occurrences de la vie, comme dirait Spinoza en latin. Autrement dit, c'est un auteur tragique. Et je crois qu'en effet, on ne rend pas justice à la grandeur de Montaigne si on n'évoque pas cette dimension tragique de son œuvre et de sa pensée. Tragique, pas au sens ordinaire du terme, où Montaigne essaierait de nous rendre malheureux. Montaigne n'est pas Cioran, et malgré le talent de Cioran, c'est évidemment tant mieux. Non, tragique au sens où il n'escamote pas ce qu'il y a dans le réel d'insupportable, d'inacceptable, d'injustifiable. Tragique au sens où il ne fait pas semblant d'être heureux quand il ne l'est pas. Il ne fait pas semblant d'être malheureux quand il ne l'est pas.
Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, et à moi. Nous sommes de grands fous. Il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi ? N'avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Si on m'eût mis au propre des grands maniements, j'eusse montré ce que je savais faire. Avez-vous su méditer et manier votre vie? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos.
Il faut revenir sur ce que vous dites quand vous parlez d'un auteur tragique, parce que à l'oreille, on entend un auteur tragique. On peut entendre soit que c'est un auteur désastreux, soit que c'est un penseur de la tragédie ou de l'humaine tragédie ou de la condition humaine comme étant une tragédie. Là où
il est tragique au sens, voilà, où Nietzsche, au sens que Nietzsche donne à ce mot,
précisément.
C'est-à-dire que, vous savez que l'artiste tragique, c'est celui qui dit oui à la vie dans sa totalité, y compris dans ce qu'elle a de grave,
donc,
de
par tragique, on n'entend pas tristesse.
C'est
ça qu'il faut
préciser. C'est prendre la vie telle qu'elle est. Autrement dit, pour moi, le vrai affect tragique, c'est comprendre que le réel est à prendre ou à laisser. Et qu'il s'agit donc de le prendre, mais pas du tout parce qu'il serait aimable, doux, facile, agréable. Il l'est parfois, le plus souvent, il ne l'est pas. Il s'agit de prendre le réel parce que le réel est le réel, parce qu'on n'a pas le choix. Et quand Nietzsche dit « l'artiste tragique, c'est celui qui dit oui, qui affirme la totalité du réel, y compris dans ses dimensions douloureuses ou terribles », il a raison, et c'est ce qui fait de Montaigne un artiste tragique. C'est pourquoi Nietzsche a tort, par ailleurs, mais on en finirait pas de parler de Nietzsche, de dire qu'il est le premier penseur tragique. Je suis le premier philosophe tragique. C'est évidemment faux. D'abord parce qu'il y a Montaigne, ensuite parce qu'il y a Pascal et un certain nombre d'autres.
C'est amusant de voir que on peut pas parler de Montaigne sans parler des autres. Ce qui n'est pas une façon de ne pas parler de Montaigne, mais au contraire de, dans la foulée de Montaigne, de suivre la façon qu'il a lui-même d'intégrer les autres à son propre... Et puis surtout, il a une façon de faire qui fonctionne par ajout, comme il le dit lui-même, et par gaillardes escapades. Puisqu'il faut préciser qu'il y a plusieurs éditions des essais, et que les essais ont fonctionné, comme il le dit, par allongeaille. Il n'a cessé de rajouter des textes, des citations, d'incorporer des citations à son œuvre. Et dans l'édition que Marie de Gournay a finalement mise en place, cette édition en elle-même se donnait comme une achevée. Ce qui est intéressant, par exemple, vous parliez d'opposition entre Pascal et Montaigne, on pourrait parler de fraternité. Fraternité dans la mesure où ce qui nous reste de Pascal est fragmentaire, je parle des pensées ici, ce qui nous reste de Montaigne est inachevé. À la différence du fragment, c'est plutôt quelque chose qui enfle sans cesse, mais qui n'a d'une certaine façon pas plus de structure que les pensées de Pascal. Et il y a ici peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un refus de la linéarité, d'un refus de l'univocité chez l'un comme chez l'autre, peut-être Pascal parce qu'il est mort avant, mais finalement, puisque c'est le Pascal dont on dispose, est-ce qu'on ne doit pas savoir gré à l'un comme à l'autre d'avoir remis la discursivité à la place qui était la sienne, c'est-à-dire une place finalement mineure, la discursivité au sens la démonstration, le syllogisme?
Oui, les deux, Pascal comme Montaigne, les trois, parce que Nietzsche est de ce côté-là, sont des auteurs non systématiques. Autrement dit, les essais de Montaigne, comme les pensées de Pascal, comme le gai-savoir de Nietzsche, c'est le contraire d'un système. Et pour des raisons qui ne sont pas simplement de tempérament, pour des raisons qui touchent au fond à la conception même de la philosophie. Et plus je fais de la philosophie, plus je suis convaincu que sur ce statut de la philosophie, c'est Montaigne, c'est Pascal, c'est Nietzsche qui ont raison contre les auteurs de système, c'est-à-dire contre Descartes, contre Leibniz, contre Kant, contre Hegel, si vous voulez. Et donc il y a non pas une discursivité systématique, mais une discursivité inachevable. Alors là, disons quelques extraits du tout début du chapitre 9 du livre 3, de la vanité, qui pour moi est le plus beau de tous les essais de Montaigne. Montaigne écrit « Qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. »
Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions, fortune les met trop bas. Je le tiens par mes fantaisies. Et quand serais-je à bout de représenter une continuelle agitation et mutation de mes pensées en quelque matière qu'elle tombe, puisque Diomède remplit 6000 livres du seul sujet de la grammaire? Que doit produire le babil, puisque le bégaiement et dénouement de la langue étouffa le monde d'une si horrible charge de volume?
Et non seulement c'est inachevé, mais en plus c'est hétérogène. Il n'y a pas d'ordre des raisons chez Montaigne, parce qu'il y a un désordre des idées. Toujours dans ce même chapitre 9 du livre 3, Montaigne écrit, il vient de faire une digression, il ajoute « Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique. » J'aime l'allure poétique à sauts et à gambades. C'est l'indigent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. C'est tellement vrai et tellement beau.
C'est un homme qui, pour ne pas se perdre, vagabonde. C'est un homme qui, pour ne pas s'égarer, va là où son cœur lui dit d'aller. Comme si, finalement, le chemin que le cœur trace était le seul chemin qui ne soit pas une impasse, en réalité.
C'est toujours mon chemin, comme il le dit à propos du voyage. Où qu'il aille, c'est là où qu'il soit, c'est là où il voulait aller, c'est toujours mon chemin. Autrement dit, il n'y a pas d'ordre. Et donc c'est le désordre qui est le vrai. Et il n'y a pas de but. Et donc c'est la promenade qui est le vrai. C'est la digression infinie ou en tout cas indéfinie. Et de ce point de vue, effectivement, en philosophie, il y a au fond deux façons de faire de la philosophie pour aller aux extrêmes. Entre les deux, il y a beaucoup de nuances possibles, bien sûr, mais il y a soit les essais, soit le système, si vous voulez. Et Montaigne, qui crée donc le genre essai, et qui fait vraiment, entre nous soit dit, là, un livre sans précédent. Comme étaient les confessions de saint Augustin, mais c'est pas du tout la même chose, des essais et des confessions, et comme ne seront pas tout à fait les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Là, il fait vraiment un livre sans précédent, et d'ailleurs qui ne cessera d'être reconnu et célébré comme tel dans l'humanité entière. Vous savez que lorsque Tolstoï est parti très vieux pour mourir, il a emporté deux livres, la Bible et les essais de Montaigne. On n'imagine pas Tolstoï emporter la critique de la raison pure ou la phénoménologie de l'esprit.
À moins de vouloir mourir plus vite, peut-être.
Mais d'ennui.
Voilà, mourir d'ennui. Vous dites c'est son chemin. Revenons-en un instant, alors, parce que c'est essentiel à comprendre, au paradoxe, justement, d'un homme qui, par humilité, ne parle que de lui-même, puisque c'était le paradoxe initial qui avait valu tant de malentendus, et à Rousseau comme à Pascal de tenir Montaigne pour vaniteux dans la mesure où il se donnait lui-même comme objet. Finalement, ce que les essais expriment, c'est le fait que, quoi qu'on dise, quel que soit l'objet que la pensée se donne, eh bien, c'est quelqu'un qui se donne cet objet. Si je parle de quelque chose, c'est quand même moi qui en parle. Et si je parle de moi-même, l'objet que je me donne est un objet insaisissable, puisque c'est moi-même qui en parle. Ce qui veut dire aussi que le chemin que se donne Montaigne est un chemin qui ne peut pas ne pas être le sien, donc il ne peut que parler de lui-même, et il a l'honnêteté de dire que... Si vous voulez, à la différence de ceux qui prétendent traiter de l'être ou de l'absolu ou de l'objectif, il a l'honnêteté de dire et de mettre en scène le fait que tout ce qu'il dit, c'est lui qui le dit, et ça n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas également en philosophie, vous parliez des deux façons de faire de la philosophie, est-ce qu'il n'y a pas également en philosophie deux tentations ? La première, c'est celle d'une subjectivité radicale, résolue, sceptique, mais cette fois-ci... scepticisme pauvre,
sophistique,
de l'homme ou de tout un chacun qui serait la mesure de toute chose, sophisme, enfin, sophistique protagoréenne, et d'un autre côté, un désir d'objectivité, c'est-à-dire de se dissoudre sous l'objet qu'on donne à voir dans sa vérité, et finalement de disparaître, de n'être plus que l'interprète d'une vérité qui nous dépasse et qui dépasse notre subjectivité. Ce que fait Montaigne, finalement, c'est qu'il s'intéresse à la vérité, sans oublier que ça n'est jamais lui qui le fait.
Exactement. Autrement dit, il ne fait pas semblant d'être Dieu. Voilà. Et il a évidemment raison. Moi, c'est ce que j'ai appelé, dans un article sur la tradition française en philosophie, l'égo-philosophie. Vous savez, au sens où les historiens parlaient de... il y a une vingtaine d'années, mais on en parle toujours, mais ça a été à la mode il y a une vingtaine d'années, d'égo-histoire. Qu'est-ce que c'est que l'égo-histoire ? C'est un historien qui entreprend de faire un livre historique sur son propre parcours. Autrement dit, c'est l'histoire à la première personne. C'est l'histoire dans laquelle l'historien se prend lui-même comme objet. Ce qui est une toute petite partie de l'histoire. L'essentiel du travail des historiens, c'est pas de parler d'eux, c'est de parler du monde, de la société. Ce que j'appelle l'égo-philosophie, c'est un philosophe qui se prend lui-même pour objet. Mais là, c'est pas une toute petite partie de la philosophie, c'est la philosophie même. C'est-à-dire qu'un philosophe, même systématique, même se prenant prétendument pour Dieu, en vérité, ne fait pas autre chose que parler de lui-même. Vous savez que Hegel écrit quelque part, en substance, je cite de mémoire, mais à peu près ceci, « Ce qui, dans mon système, me ressemble, est faux. » Montaigne lui dirait, mais ça veut dire que tout est faux, parce que tout forcément te ressemble. Montaigne dirait exactement à l'inverse, ce qui, dans mes essais, ne me ressemble pas, est faux. Or, comme tout dans les essais lui ressemble, tout est vrai, vérité subjective, bien sûr, vérité à la première personne, égo-vérité, égo-philosophie, mais encore une fois, c'est la philosophie vraie, à condition, vous l'avez bien dit, de ne pas renoncer à l'idéal de vérité, en sachant qu'on ne la possédera jamais absolument, mais en restant soumis à ce que Spinoza appellera la norme de l'idée vraie donnée. J'ajoute, moi, corrigeant Spinoza par Montaigne, la norme de l'idée vraie donnée ou possible. Et c'est ça qui fait la différence entre le sceptique, qui est en effet Montaigne, et le sophiste, qu'il n'est assurément pas, c'est que lui ne renonce pas à chercher la vérité, à s'en approcher autant qu'il peut. Autrement dit, il ne dit évidemment pas qu'il n'y a pas de vérité, il dit que rien n'est certain, ce qui n'est pas la même chose. C'est la différence, là encore, prenons des génies, entre Montaigne et Nietzsche. C'est-à-dire que la grande formule de Nietzsche dans les fragments qu'on dit de la volonté de puissance, tout est faux, tout est permis, eh bien c'est exactement le contraire de ce que Montaigne pense. Tout n'est pas faux. On ne connaît jamais la vérité absolument, mais on peut s'en approcher assez pour savoir la différence qu'il y a entre la sincérité et le mensonge, entre un savant et un ignorant. Et tout n'est pas permis. D'abord parce que je ne me permets pas tout, mais aussi parce que je reste fidèle à l'enseignement de mon père, ce qui, pour Montaigne, est très important, de mes maîtres et même de la Bible. Puisque vous savez, quand il s'agit de penser la morale, Montaigne, dont la mère était juive, vraisemblablement juive, la chose est débattue par les spécialistes, Montaigne évoque, ce qui n'est pas fréquent dans son œuvre, la loi donnée par Moïse à son peuple sorti d'Égypte. Et la façon dont Montaigne, sceptique, assume au fond ce que j'appelle moi la fidélité, non pas la foi, il ne s'agit pas de Dieu, il ne dit rien au fond, on ne sait même pas s'il y croyait ou pas, mais la fidélité, c'est-à-dire la prise en compte d'une loi dont on ne prétend pas faire un absolu, dont on sait qu'elle est relative, dont on sait qu'elle est humaine, historique, évolutive, mais sans laquelle il n'y a pas d'humanité qui vaille. Si bien que Montaigne est sceptique, il n'est pas sophistique parce qu'au fond, il est humaniste. Et ce mot d'humanisme, souvent un peu galvaudé de nos jours, chez Montaigne, prend toute sa grandeur. Ça n'est pas un humanisme théorique, comme dirait Althusser, ça n'est pas un humanisme spéculatif, c'est un humanisme pratique. Il s'agit pas de se mettre à genoux devant je ne sais quelle essence humaine, il s'agit de faire bien l'homme et dûment, comme dit joliment Montaigne, que c'est la formule, il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. L'homme n'est pas d'abord à penser, il est à faire, il est à construire, et là encore dans le même mouvement de sa déconstruction toujours recommencée.
Les autres forment l'homme, je le récite, et en représente un particulier bien mal formé, et lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est, mais lui c'est fait. Or les traits de ma peinture ne se fourvoient point, quoiqu'ils se changent et diversifient. Le monde n'est qu'une branloire pérenne, toute chose y branle sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant.
Il y a deux façons pour la philosophie de renoncer à la vérité. La première, c'est de la poser comme hors d'atteinte, à la façon dont la philosophie, telle qu'on l'enseigne en terminale, est une philosophie qui se veut amour de la sagesse et par conséquent manque de sagesse, désir d'une sagesse qu'elle ne possède pas, donc la philosophie qui se donnerait la sagesse comme l'étoile du Nord, qu'il faudrait atteindre, ou comme la volonté de décrocher la Lune, qu'on ne décrochera jamais. Première façon pour la philosophie de renoncer à la vérité, au nom de la vérité elle-même. La vérité est chose trop belle, trop pure, trop impeccable ou trop immobile, pour que nous, avec nos mouvements dans le temps et dans l'espace, nous puissions y prétendre, à part peut-être en nous servant de la raison et en abjurant les illusions de notre corps. Renoncement métaphysique à la vérité. Au nom de la vérité elle-même et de la gloire de la vérité elle-même, l'autre façon de renoncer à la vérité est une façon subjective. Moi qui suis un sujet, je ne peux pas prétendre à la vérité et par conséquent, je m'en tiendrai à mon opinion. On se rapproche de Montaigne, mais on n'y est pas encore tout à fait. Car il y a chez Montaigne un retour de l'idée de vérité qui tiendrait non pas au fait que la vérité serait à la portée de la raison, mais tout simplement au fait que la vérité, c'est d'abord la fidélité à soi. Ou la sincérité, est-ce qu'on peut le comprendre comme ça?
Il y a deux choses. Il y a une vérité rétrospective qui est effectivement la fidélité à soi, notamment la fidélité à la parole donnée, où Montaigne, là, est beaucoup plus rigoureux qu'on ne pourrait le croire. Et mon maître Marcel Conch a bien montré qu'au fond, justement parce que l'ego n'existe pas, qu'il est à construire, il se construit d'abord rétrospectivement dans la fidélité à ce qu'on a été. Je ne suis pas le même que j'étais hier, mais si j'ai donné ma parole hier, je dois la respecter aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'identité se construit jour après jour dans ce mouvement même de fidélité. Et puis, il y a une vérité non pas rétrospective, mais prospective, qui est la vérité qu'on cherche, celle vers laquelle on tend. On sait bien qu'on ne l'atteindra jamais, mais ça n'est pas une raison pour renoncer à s'avancer vers elle. Autrement dit, Montaigne est comme ces voyageurs à qui il n'importe pas, il le dit d'ailleurs expressément, d'arriver quelque part. Il part pour partir. C'est le vers de Baudelaire, les vrais voyageurs sont ceux qui partent pour partir. Et bien voilà, Montaigne part à la recherche de la vérité pour partir, pour le plaisir de la recherche, de la quête.
L'important n'est pas la prise, mais la chasse.
Exactement, comme dira génialement Pascal. C'est exactement ça. Et ce mouvement vers la vérité est déjà un plaisir. Et c'est pour ça que Montaigne ne s'installe pas dans le manque platonicien de la vérité.
il n'est pas du côté d'Eros, de ce point de vue, il est du côté de Philia, hein. Philosophia, l'amour de la vérité, mais non pas en tant qu'elle manque, autrement dit, là, il faut dire Erosophia en quelque chose, mais en tant qu'on en jouit d'abord. Alors, il faut dire, lire rapidement dans le chapitre 26 du livre 1, ces quelques mots de Montaigne sur la philosophie et sur la sagesse.
Je précise, pardonnez-moi, que le chapitre 26 est un chapitre essentiel dans l'œuvre de Montaigne, puisque c'est le chapitre qui porte sur la question de l'éducation des enfants, dans lequel il revient sur la propre façon dont lui-même a été éduqué, on en parlera après.
Voilà, y compris sur les limites de l'éducation, on nous apprend à vivre quand la vie est passée. 100 écoliers ont pris la vérole avant que d'être arrivés à leur leçon d'Aristote, de la tempérance, qui est évidemment délicieux. Mais je voulais citer un autre partage. Donc, à propos de la philosophie, Montaigne écrit ceci, « On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux ? Il n'est rien plus gai, plus gaillard, plus enjoué, et à peu que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. Une mine triste et transie montre que ce n'est pas là son gîte. » Alors cette formule-là, il n'est rien plus gai, plus gaillard, plus enjoué, et à peu que je ne dise folâtre, est une formule qui réjouit notre ami Clément Rosset, et c'est effectivement l'une des plus belles choses qu'on ait écrites sur la philosophie. Épicure disait déjà la même chose. Souvent, le plaisir est au bout du chemin, mais s'agissant de la philosophie, l'effort, le travail, la quête et le plaisir vont ensemble. Il y a un plaisir à penser.
Il dit alors la phrase de
bonheur de penser, comme dira Alain, bon lecteur de Montaigne. Eh bien voilà, Montaigne ne prétend pas posséder la vérité. Il nous montre qu'on ne pourra jamais la posséder absolument, mais il nous apprend à jouir du bonheur de penser, ce qui est exactement la philosophie vraie.
Ce qui veut dire que le but n'est pas ce qui coordonne la démarche et le fait de se rendre quelque part à la façon dont en voyageant, on irait d'un lieu à un autre. Mais comme il le dit lui-même, c'est la chasse elle-même qui est proprement notre gibier. C'est la démarche elle-même qui fait le but et l'intention. Donc c'est une intention. De la même façon que Montaigne peut dire que ça n'est pas plus lui qui a fait son livre que son livre qui l'a fait lui-même, pardon de la citation approximative, il faut bien comprendre que chez Montaigne, l'intention est immanente à la pratique même. L'intention n'est pas au-delà de la pratique comme un but qu'elle se donne et auquel elle parviendrait ou non à la fin.
Oui, ne serait-ce que pour une raison qui pourrait être zen, mais qui en l'occurrence est stoïcienne chez Montaigne, d'autant que rien ne nous est donné que le présent. Or, le but, par définition, il est dans l'avenir, il est futur. Chacun court ailleurs et à l'avenir, écrit Montaigne, d'autant que nul n'est arrivé à soi. Le but, c'est est dans l'avenir, la vie est dans le présent. Et donc, il n'y a pas de but, ça n'est jamais le but qui justifie l'action, il doit y avoir un plaisir, une nécessité dans l'action elle-même. La vie est elle-même à soi, sa visée, comme dit Montaigne. Et donc, il s'agit de vivre au présent, si bien que si vous partez en voyage pour aller à Venise, si vous avez le sentiment que votre bonheur commencera quand vous serez à Venise, vous êtes séparé du bonheur par le voyage lui-même. Si au contraire votre bonheur est dans le voyage, si vous êtes un vrai voyageur, comme dit Baudelaire qui part pour partir, le bonheur commence dès l'instant où vous êtes parti.
La moitié du plaisir de Venise étant le train couchette qui nous y conduit.
La moitié, c'est beaucoup malgré tout pour Venise, qui est une ville par ailleurs sublime, mais disons qu'effectivement, et surtout, il faut comprendre que comme on n'est jamais en repos, on est toujours déjà parti, si vous voulez. De ce point de vue, la vie chez Montaigne est un petit peu ce que Louis Althusser appellera beaucoup plus tard un procès sans sujet ni fin. Sans sujet parce qu'il n'y a pas d'ego substantiel, il n'y a pas d'ego cogitant, c'est comme dira Descartes, et sans fin, non pas parce qu'il n'y a pas de mort, mais parce qu'il n'y a pas de but, sans finalité. La mort est le bout de la vie, elle n'est pas son but, écrit Montaigne. Et voilà, alors habiter une sagesse sans sujet ni fin. Et c'est là la vraie modernité de Montaigne. Et de ce point de vue, peut-être qu'on ne peut vraiment comprendre Montaigne qu'après la grande époque du structuralisme, c'est-à-dire les années 60-70 du XXe siècle. Apprendre à habiter une sagesse sans sujet ni fin, une sagesse sans illusion sur le sujet et sans illusion sur la sagesse, là encore, ça donne et la grandeur et la modernité de Montaigne.
Est-ce que ça n'est pas également une tautologie de dire sans sujet ni fin? Puisqu'après tout, s'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sujet.
Et s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de fin.
Mais est-ce que ça va dans ce sens-là? Quand on se donne un but, on se constitue en sujet, alors qu'en réalité, quand on part de soi, du chaos que nous sommes, nul besoin d'un but, il n'est nul besoin d'un but.
Bien sûr, c'est ce que j'appelle moi la sagesse du vent. Je crois que l'expression n'est pas chez Montaigne, mais le modèle du vent y est bien. Donc c'est 3-13, là, encore de l'expérience. Moi qui me vante d'embrasser si curieusement les commodités de la vie, et si particulièrement, n'y trouve, quand j'y regarde ainsi finement, à peu près que du vent. Mais quoi, nous sommes partout vent. Et le vent encore, plus sagement que nous, sème à bruire, à s'agiter, et se contente en ses propres offices, sans désirer la stabilité, la solidité, qualité non sienne. Montaigne, maître zen, là encore Montaigne, génial penseur de l'impermanence et d'une sagesse pour l'impermanence. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'atteindre un bien absolu, éternel, immuable. Il s'agit d'habiter l'impermanence, il s'agit de prendre modèle sur le vent plus sage que nous, qui sème à bruire et à s'agiter. Et là, vous avez tout à fait raison, il ne s'agit pas de trouver un but à la vie, un sens à la vie vaut par elle-même, elle est à elle-même son but et sa visée, comme dit Montaigne. Et elle nous donne en effet des raisons de penser.
Merci André Comte-Sponville. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la dernière livraison de commentaires et la suite de cette conversation sur les essais de Montaigne. C'était Commentaires, une émission proposée par Raphaël Antoven que vous pouvez réentendre ou télécharger toute la semaine sur notre site internet www.franceculture.com. À la lecture des textes, Georges Claes. À la réalisation, Brigitte Bouvier, à la technique, Jean-Michel Bernaud. Dans quelques instants, la suite des programmes sur France Culture avec votre feuilleton, le feuilleton d'Avignon de Bruno Tackels.
La personne humaine est une forteresse inexprimable.
La tâche de la pensée est de trouver la piste, ou plutôt de trouver une piste.
Écoutez, France Culture.
Le mouvement donne plus de chance à l'homme. Le corps s'échauffe, l'instinct s'éveille.
Chaque jour sur France Culture.
Ça parle, ça pense.
Sois mémoire, fâche du sport.
Votre mémoire fait 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 du sport.
Le Festival d'Avignon à 60 ans, France Culture raconte. Jusqu'au 21 juillet, archives d'hier et voix d'aujourd'hui, chaque matin à 11h, le feuilleton d'Avignon, véritable épopée porteuse de l'essentiel du théâtre européen.
La scène où la petite Nathalie d'Orange, Jeanne Moreau, tend une couronne de laurier et le grand collier de l'électeur au prince somnambule, Gérard Philippe, continue de hanter ma mémoire de spectateur. D'une certaine manière, elle est l'image même du théâtre.
À 13h30, c'est Bernard Fèvre-Darcier qui raconte son histoire du festival, telle qu'il